Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis.
Charlotte de Turckheim, elle doit son succès à des sketchs inspirés par son quotidien et sa famille. Mais il n'y a pas que cela dans sa vie. Savez-vous par exemple que sa véritable passion c'est le bricolage et qui l'a envoyé en Afghanistan en pleine guerre un soir de réveillon ? L'Élysée, tout simplement. Des souvenirs parmi beaucoup d'autres que vous allez découvrir tout de suite dans ces clés d'une vie.
Sud Radio, les clés d'une vie de l'été, Jacques Pessis.
Bonjour Charlotte de Turckheim.
Bonjour.
Alors il y a ce dictionnaire de votre vie qui paraît chez Kairos, qui vous raconte vraiment, et on va s'en servir comme fil conducteur de cette émission avec des dates clés, puisque moi je pars du principe que les dates clés peuvent éclairer la vie. D'accord ?
D'accord. Oui,
alors,
Jacques.
Alors Charlotte, la première date que j'ai trouvée, c'est le 1er mars 1981. C'est votre première télé dans Entrez les artistes. Vous présentez dans l'émission de Jacques Martin le troisième jumeau, une histoire où vous êtes une paysanne marchande de pommes. C'est la première fois qu'on vous voit à la télévision.
Ah bon ?
Oui.
Ah bah vous êtes mieux renseigné que moi, je ne m'en souvenais pas du tout.
Voilà.
Alors en 81, non, c'était... Redites l'émission.
Entrez les artistes, c'était Jacques Martin le dimanche. Et il y avait un reportage de France Weber qui présentait le troisième jumeau. Que vous jouiez
mais
à l'époque
non.
Dans un café-théâtre.
Oh là là, mon Dieu.
C'était
il y a si longtemps.
Oui, mais c'est un spectacle. Vous étiez une paysanne vendant des pommes. C'était assez surréaliste. Et vous vous amusiez beaucoup.
Ah bah, c'était une époque. C'était vraiment la grande époque du café-théâtre, qui était une époque d'une liberté, d'une création, d'une inventivité. Tout était possible. C'était génial, vraiment génial.
Oui, parce qu'en plus, vous aviez commencé au Café Théâtre avec le bonbon magique à la Cour des Miracles.
J'ai même commencé au Festival d'Avignon, et je suis d'ailleurs toujours étonnée de m'apercevoir que ce Festival d'Avignon est toujours et encore un tremplin absolument formidable et un lieu de création où il y a maintenant 900 spectacles par saison.
Oui, sauf
moi, j'ai
cette
là.
Année, oui.
Sauf cette année.
Oui. Mais vous avez commencé là, et ce spectacle, il s'est développé. La Cour des Miracles, c'était un café-théâtre qui était tenu à l'époque par une dame, qui s'appelait Jackie Sandor.
Ah, c'était qui d'ailleurs ? Tout le monde croit que c'est une dame, mais c'est un monsieur.
C'est un monsieur ?
C'est un monsieur, Jackie.
Ah, c'est drôle. Partout, on dit que c'est une dame.
Mais oui, partout, on dit que c'est une dame.
Il avait fait un trait d'artisan, puis qui a brûlé, malheureusement. Et vous êtes arrivé dans ce théâtre avec ce spectacle, qui était un spectacle écrit, mais avec peu de monde au début, hein, Charlotte de Turckheim.
Alors, bah, au début, justement, on l'avait créé à Avignon,
oui.
Et on était dans une toute petite salle, et qui devait faire, je sais pas, 25 ou 30 places, donc on était plein tous les soirs, alors pour nous, c'était le triomphe. Et quand Jackie Sandor est venu nous voir, justement, à Avignon, et qui nous a demandé de venir jouer chez lui à Paris, on n'avait pas du tout réalisé que sa salle devait faire 200 ou 300 places.
Oui.
Et que donc, pour remplir 300 places à Paris, mais c'est, en fait, c'est un véritable challenge, quoi.
Et vous avez fait un coup génial. Vous avez débarqué à Europe numéro 1 à l'époque où il n'y avait pas de contrôle.
Exactement, il n'y avait pas tous les badges.
Voilà. Et vous êtes rentré dans le studio de Coluche qui était en train de faire son émission.
Voilà, je suis rentré en direct. Je ne savais absolument pas ce que c'était que du direct, oui. De toute façon. Lui, ils étaient estomaqués quand ils m'ont vu rentrer en me disant « Mais qui es-tu ? Qu'est-ce que tu fais ?» etc. Ben, je lui ai dit « Voilà, je m'appelle Anne-Charlotte de Turckheim. » Alors déjà, ils étaient morts de rire. Et je lui ai dit « Voilà, on a un spectacle qui est super, mais il n'y a personne dans la salle et on aimerait bien que vous nous fassiez de la pub. » Alors il était estomaqué parce qu'il me dit oh, tu manques pas d'air, tu comment, pourquoi est-ce que j'irai voir ton spectacle. Ben, je dis je sais pas, quand les aristos ira, mais que les, parce qu'il me dit oh, oui, il me dit t'as un nom hein. Ah mais t'es une aristo, alors je dis oui, il me dit depuis quand les aristos ont besoin des prolos. Je dis quand les aristos ira, mais que les prolos ils ont des émissions à Europe qui sont des vedettes, et ben c'est sûr que les aristos ont besoin des prolos, ouais. Donc ça l'a fait marrer. Il est venu nous voir le soir même et après nous a produit au Café de la Gare.
Voilà, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, mais personne n'osait entrer dans le studio de Coluche, même Paul Lederman, son impresario, je me souviens très bien, un jour, je dois aller voir Coluche, Lederman n'osait même pas rentrer pendant l'émission. C'était quasiment interdit.
Ah bon, je savais pas ça.
Alors,
non, mais ça veut dire que c'est interdit. Ben, parce que c'est interdit de rentrer dans le studio en direct.
Ben oui.
C'est ça.
Oui, c'est Paul Lederman. Il avait peur de se faire engueuler par Coluche.
Ah ben bien sûr, mais je pense que si j'avais pas. D'ailleurs, au bout d'un moment, non, je me suis pas fait engueuler, mais au bout d'un moment, ils m'ont dit, enfin, t'es timbré, quand même, on rentre pas comme ça. Mais j'avais pas du tout conscience de ce que je faisais, en fait.
Et vous n'avez pas non plus conscience du fait que Coqueluche, quelques temps plus tard, vous propose d'écrire un spectacle pour vous.
Ah oui.
Et vous avez refusé au départ, Charlotte de Turckheim.
J'ai refusé parce que j'étais tellement sous le choc. Parce que pour moi, j'étais totalement impressionnée, j'étais complètement fascinée par cet homme. Donc, il me propose de m'écrire un spectacle, j'en crois pas mes oreilles, j'en reviens pas, puis ça me fait peur. J'ai peur de pas être à la hauteur, j'ai peur de le décevoir. Voilà. Puis un an après, quand même, j'accepte en me disant, mais c'est un de mes potes qui me dit, mais enfin, t'es timbré, quoi. Coluche, je te propose de t'écrire un spectacle et tu dis non, toi, mais tu vas pas bien.
Et donc, finalement, j'ai dit oui. Ça s'appelait La fin du monde aura lieu un mardi. Ouais. Et vous le jouiez au théâtre Edgar, qui n'est pas celui d'aujourd'hui, et les portes étaient ouvertes pendant le spectacle pour que le public rentre, Charlotte de Turckheim.
Exactement. En fait, ça racontait l'histoire d'une fille qui était devenue dingo et qui s'était engueulée avec toute sa troupe de théâtre et qui avait fini par, en fait, habiter le théâtre. Et elle était en quête de public parce qu'en fait, elle s'ennuyait. Donc les portes du théâtre étaient ouvertes et les gens rentraient, s'installaient les uns après les autres. Et moi, j'étais, enfin, mon rôle, moi, j'étais trop contente de les voir. Et puis petit à petit, les gens comprenaient que le spectacle avait démarré, quoi. Mais que j'habitais là, en fait, et j'avais transformé la scène en studio. Il y avait une douche, il y avait une cuisine. Je prenais une douche, je me souviens. Je me faisais un repas. C'était mon studio que j'habitais là.
Voilà. Et finalement, alors que vous habitiez dans un hôtel particulier, mais avec ce côté rebelle qui a fait que vos parents étaient rebelles et que vous l'avez conservé, ce côté Charlotte de Turckheim.
Ben, mon père était assez rebelle, puisqu'il a décidé quand même de changer de vie assez brutalement, en nous disant, mais je me suis fourvoyé, je vous ai élevé comme des petits bourgeois, mais alors que le monde est vaste, et d'ailleurs, je pars en Inde, et d'ailleurs, je pars faire le tour de la Méditerranée. Alors, à la fois, on est un peu abandonné parce que il est parti un peu subitement, mais en même temps, il nous a aussi ouvert les portes des possibles, les portes de l'étranger. On n'a jamais eu peur ni des autres, ni de la différence. Et ça, c'est à lui qu'on le doit.
Oui, il était journaliste, je crois.
Non, pas du tout. Non. Ah bon ? Non, lui, il avait inventé un truc très rigolo. Il avait inventé les coursiers. C'est lui qui a inventé les coursiers.
Ah, carrément, alors ouais. Qu'aujourd'hui, ils sont si utiles.
Alors qu'ils sont si utiles. C'est ma tante qui était journaliste. D'accord. Hélène de Turckheim.
Oui, que j'ai bien connue au Figaro.
Oui, voilà.
Elle était une journaliste brillante et très mondaine. Et alors, vos études se passent très bien, c'est des études sérieuses. Je crois même que vous avez eu Frédéric Mitterrand comme professeur, Charlotte de Turckheim.
Alors, j'ai eu des études sérieuses, enfin jusqu'au bac, parce qu'après, oui. J'ai pas continué. Oui. Mais ce qui était très marrant, c'est qu'à l'école où j'étais, qui était une école très moderne, c'était pas un genre Montessori, mais pas loin. On avait comme proc Frédéric Mitterrand, et j'avais 14 ou 15 ans, et il nous avait emmenés en voyage à Berlin-Est pour nous montrer ce que c'était la différence entre le capitalisme et le communisme, et de vivre ça in situ. Et c'était, moi, ça m'avait mais fasciné d'être en contact avec cet univers-là. C'était génial. Hein.
Et puis vous aviez une autre passion à l'époque, une passion qui est symbolisée par une chanson de Brassens que Patachou a créée.
Le clou qu'il enfonce à la place du clou d'hier, il le remplacera demain par un clou meilleur, le même qu'avant-hier d'ailleurs. Mon Dieu, quel bonheur! Mon Dieu, quel bonheur d'avoir un mari qui bricole! Mon Dieu, quel bonheur! Mon Dieu, quel bonheur d'avoir un mari bricoleur!
Patachou qui a forcé Brassens à monter sur scène le 6 mars 52 dans son cabaret, c'est comme ça qu'il a débuté.
Ah oui?
Et il lui a écrit cette chanson, Le bricoleur, parce que le bricolage, bah, c'est votre vie finalement, Charlotte de Turckheim.
Alors ma vie, n'exagérons pas, non. Mais c'est vrai que j'adore ça. Et puis justement, je crois que ça m'est venu, d'abord quand j'étais toute petite, quand j'ai commencé à être ado, j'avais soif de décorations différentes de celles que mes parents me proposaient, et ma seule manière c'était de le faire moi-même. Donc moi, j'étais très branchée sur les années 70, tout ce qui était orange, je sais pas si vous vous souvenez de cette époque et tout. Donc c'est vrai que j'allais au BHV et puis je m'achetais du bois, je m'achetais des scie sauteuses, des machins, et je faisais tout moi-même, en fait. C'était très amusant.
Et vous rêviez aussi d'avoir une tenue chez Renoma, mais vous n'avez pas l'argent nécessaire. Ça, c'est un de vos grands regrets.
C'était pas un regret, parce que du coup, ça m'a appris à coudre. Oui. Et je me suis dit, puisque je peux pas m'acheter ça, c'est beaucoup trop cher pour moi, je vais le faire, en fait. Et du coup, ce qui est bien, c'est que ça m'a donné aussi ce goût de la liberté. C'est-à-dire que si je veux quelque chose, j'ai qu'à le faire, en fait.
Voilà. Mais vous auriez pu voler chez Renoma, car c'était la tradition là-bas. La bande du drugstore venait, il n'y avait pas les machines et les sonneries à la à la sortie, ils prenaient leur manteau, une veste sous le manteau et ils repartaient avec sans problème.
Ça, c'est vrai que moi, j'ai des copains qui faisaient ça. C'était l'époque où vraiment les gens volaient dans les magasins, mais c'était dingue. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas les bips, il n'y avait rien. Moi, je devais être beaucoup trop trouillarde pour voler. Et je me suis dit, c'est mieux de... Et puis, en fait, ça m'a aussi permis de découvrir tout un monde, celui du marché Saint-Pierre, de la couture, les tissus, les nouveaux couturiers, genre Jean Bouquin, qui faisaient des vêtements complètement délirants. Et finalement, ça m'a ouvert tout un monde presque de rêverie, quoi. C'était génial.
Et vos premières photos dans la presse, je crois que c'est dans les fiches pratiques de Elle, les fiches cuisine de Elle.
Oui, c'est vrai. Il y a tellement longtemps, ça. Mais pour payer les cours de théâtre, mais pour vivre, enfin, pour gagner ma vie, en fait, comme j'étais assez bricolo, que je faisais plein de trucs moi-même, eh bien, il y avait à l'époque, ça existe toujours, en fait, faites-le vous-même, quoi.
Bien sûr.
Donc, je faisais des recettes de trucs très faciles à faire, en couture, en tout d'ailleurs, en pâtisserie, en bricolage. Et je gagnais ma vie avec ça. Et je gagnais assez bien ma vie avec ça, jusqu'au jour où mon prof de théâtre m'a dit, écoute, là, faut que tu choisisses. Moi, je pense que t'es vraiment faite pour être comédienne. Mais bon, si tu veux continuer à faire tes trucs de bricolage et tes coutures et tes costumes. Mais ça m'amusait aussi vachement, toute cette création-là.
Oui. Et d'ailleurs, ces fiches pratiques sont conservées depuis plus de 40 ans. Beaucoup de femmes les ont conservées dans des boîtes qu'elles donnent à leurs enfants.
Oui, c'est vrai. Il y avait des fiches, je me souviens absolument.
Et puis, effectivement, le théâtre est venu. On va en parler à travers...
C'était les premiers tutos. C'est ce qu'on appelait les tutos. Maintenant, il y a tout ça sur Internet. Mais c'était des tutos.
Exactement. Vous étiez une pionnière et puis vous avez été aussi une pionnière le 31 décembre 2009. On en parle dans quelques instants sur Sud Radio avec Charlotte de Durquet.
Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Charlotte de Turquem. Le dictionnaire de ma vie est paru chez Kero. Et ce dictionnaire de votre vie permet d'évoquer des dates clés, dont une date qui est dans ce livre d'ailleurs, qui est le 31 décembre 2009. Et là, vous êtes en Afghanistan.
Ah, oh là 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 là, mon Dieu, ça c'est vraiment une date très très importante pour moi, parce que l'armée française m'a demandé de venir jouer mon spectacle pour les troupes françaises qui étaient en Afghanistan. Donc j'étais d'abord estomaquée par cette demande, d'autant plus que je venais de rencontrer en fait celui qui allait devenir mon mari et qui est afghan. Voilà. Et donc franchement, je me suis dit, l'Afghanistan qui frappe deux fois à ma porte comme ça en l'espace de 6 mois, c'est quand même pas banal, parce que l'Afghanistan c'est quand même très loin, il n'y a pas de raison d'être... Enfin, j'étais pas du tout liée à ce pays. Donc quand ils m'ont proposé ça, ça m'a fait un choc, parce que je me suis dit, j'étais un peu parano, je me suis dit, oh, bah alors ils sont au courant que je sors avec un Afghan, mais comment ils le savent? Puis je pense que c'est le pur hasard, en fait, oui. Parce qu'ils ne savaient pas du tout, quoi.
Non, et d'ailleurs, vous avez proposé de partir avec cet Afghan, Zaman, et puis il y a eu une grande enquête avant que ce soit accepté.
Bah, c'est-à-dire que, en fait, quand j'ai dit au colonel Tanguy, qui s'occupait donc de ça, pour de me faire venir là-bas, je lui ai dit, mais j'aimerais beaucoup, d'accord, j'accepte, je suis absolument ravie et tout, c'est une expérience incroyable et tout, mais j'aimerais beaucoup venir avec mon compagnon. Je me dis, bah écoutez, il n'y a pas de problème et tout. Ah, mais je lui ai dit, bah écoutez, en plus, c'est d'autant plus intéressant qu'il est afghan. Alors là, il y a eu un blanc. Je vous dis pas le malaise. Et donc, il me dit, il n'y a pas de problème, oui, bien sûr, etc. Et alors, ce qui m'a fait rigoler, c'est qu'après, on est devenus vachement copains, et je lui ai dit, non, franchement, quand je t'ai dit ça, ça a dû être la panique à bord. Hein. Alors, comme il était très délicat, et tout, il m'a dit, non, pas du tout, non, nous avons tout à fait géré la situation. Je lui ai dit, ouais, tu parles. Et en fait, il ne savait pas comment avoir des renseignements, en fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire monter dans l'avion du GLAM, parce qu'en fait, on est parti avec l'avion du président de la République, oui, quand même, là-bas, avec plein de militaires, que des gens très importants, Hervé Morin, le ministre de l'armée. Donc, il fallait absolument savoir qui était cet Afghan. Donc, en fait, ils ont pipoté dans le cimentant. Je sais que tu as pipoté. Parce qu'en fait, pour savoir qui c'était, ils m'ont dit, j'imagine les réunions autour de la table, ça devait être marrant, ils disaient, mais comment on peut lui demander des renseignements sur son compagnon et tout. Et ils m'ont dit qu'il fallait avoir un visa pour aller à Kaboul. Et en fait, c'est complètement faux, puisque en fait, j'allais sur une base, je n'ai jamais quitté en fait la France, puisque je suis allée sur une base française. Donc il fallait pas du tout de visa, mais comme ça c'était un bon moyen de savoir qui il était. Donc il m'a dit, donc il nous faudrait vos passeports pour pouvoir faire le visa. Et comme ça, grâce au passeport. Alors, donc après, je lui dis, mais j'imagine qu'avec le passeport, vous avez dû remonter sur 8 générations pour savoir. Il me dit, non, pas du tout, Charlotte. Je lui dis, oh, tu mens mal. Mais c'est pas possible. Bien sûr qu'ils se sont renseignés, on fait pas monter. Bien sûr. Puis heureusement, d'ailleurs, d'une certaine manière. Bien sûr, je trouve ça vraiment bien. Mais c'était un voyage extraordinaire parce que se retrouver à jouer devant des très jeunes militaires comme ça, qui auraient tous pu être mes enfants. Donc d'abord, j'étais complètement émue. J'arrivais pas, en fait, à... Je me suis dit, mais comment je vais les faire rire? J'étais trop émue. Je voyais tous ces jeunes qui avaient 18, 19, 20, 20 22 ans maximum. Et qui était comme ça perché sur ce nid d'aigle. Parce qu'au début, on m'avait fait croire que je jouais à Kaboul. Oui. Et en fait, on vous donne aucune information. Et quand je suis arrivée à Kaboul, sur le tarmac donc de la grande base aérienne...
En pleine guerre, en plus.
En pleine guerre, on était en pleine guerre. Quand je suis arrivée sur le tarmac, il y avait des gilets pare-balles, des casques, avec déjà mon nom dessus. Je mets le gilet pare-balles, je mets le casque, et je dis, mais on va à la salle de spectacle. Et là, vous êtes avec des gars des forces armées, personne ne vous dit rien. Je dis, bah, donc c'est cool comme truc et tout. Là, on vous met dans une grosse Jeep blindée, on sort de l'aéroport avec les trucs en quinconce, des fils de fer barbelés partout. Là, je me suis dit, ah oui, d'accord, en fait, c'était vraiment, j'ai l'impression d'être un peu la neuneu. Mais j'ai dit, ah non, d'accord, c'est vraiment la guerre, quoi. Et puis, on est arrivé sur un immense terrain de foot. Et là, on a vu deux hélicos arriver surarmés, avec vraiment les fusils mitrailleuses. On nous a poussé dedans en mode go, go, go. Et on est parti en. Je ne savais pas où on allait, en fait. Et on est parti, en fait, à plusieurs centaines de kilomètres de Kaboul. Et on a atterri sur une espèce de nid d'aigle, une espèce de piton rocheux, où il n'y avait rien d'autre que cette base de Nijrab, dans laquelle il y avait à peu près 2500 militaires afghans et français. Et j'ai joué mon spectacle sous la tente des hélicoptères. Donc vous imaginez comme c'était chaleureux comme endroit. Oui. Sur un camion qui transportait. La scène, c'était le camion qui transportait les chars. Et pour faire un peu joli, ils avaient mis une bâche en plastique devant. Et moi, quand même, comme je suis curieuse, j'avais soulevé la bâche en plastique. C'était criblé de balles. Mais j'ai dit, oh là 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 là, mais quel truc de dingue. Et quand on est arrivé, il y avait les deux régisseuses qui étaient avec moi. Et il n'y avait aucun matériel. J'ai dit, mais attendez, mais il n'y a pas de micro, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de projecteur. On m'a dit, si, on vous a trouvé le micro qui sert à annoncer, je sais pas, le truc de la cantine ou je sais pas quoi. Et quand il y avait un seul spot, qui était le spot qu'ils envoyaient, si vous voulez, dans le ciel, pour les hélicoptères, pour leur signaler que c'était là la base. Donc je me suis retrouvée avec un seul spot qui faisait, je sais pas, des milliers de watts en plein visage, à jouer ce spectacle devant des militaires qui étaient tous armés. Et pour me faire plaisir, ils voulaient absolument que je traverse avant de monter sur scène. Donc je suis rentrée par la salle, ils m'ont fait une haie d'honneur, mais ils avaient tous le fusil mitrailleur. Donc moi, en fait, j'avais pas du tout envie de... Je me suis dit, mais comment je vais faire pour les faire rire alors que je suis à la fois terrorisée et totalement émue, quoi.
Et c'est un souvenir grandiose.
Ah oui, alors c'était grandiose, franchement.
Au cours Simon, personne ne croyait au départ de votre carrière. On vous a traité de bonnet de nuit, je crois, Charlotte de Turquem.
Oui, absolument. C'était... Bah, en fait, je voulais pas être comédienne. Moi, je voulais faire plein de trucs dans la vie, mais je suis pas forcément comédienne. Mais j'avais un copain qui était au cours Simon. Au cours Simon, bien sûr. Après, j'étais au cours Florent. Au cours Simon. Et c'était Rosine Margal, la directrice du cours Simon à l'époque. Et moi, je venais tous les jours parce que je trouvais cet endroit vraiment trop sympa. Il y avait, je sais pas, une espèce de liberté. On vous demandait pas votre nom de famille. Vous étiez juste, voilà, juste qui vous êtes, vous. Et au bout d'un moment, elle me dit, mais toi, tu viens tous les jours, tu veux être comédienne? Je dis, non, je ne veux pas être comédienne. Moi, je viens voir mon pote Philippe, puis ça m'amuse d'être là. Et tout. Elle me dit, bah écoute, tiens, prends cette femme de La Fontaine, monte sur scène et lis là quand même, puisque tu es là. Et alors, elle me dit, bah, t'as raison de ne pas devenir comédienne, tu es un bonnet de nuit. Je me souviens de cette phrase, ça m'a vexée. Mais comme c'était pas permis, et puis je pense que ça a dû tellement me vexer que la semaine d'après, je suis remontée sur scène. Et elle me dit, ah ben ça va, t'es un peu moins ennuyeuse que la semaine dernière. Ben tiens, travaille ci, travaille ça, puis de fil en aiguille, je suis jamais partie.
Voilà. Et le déclic, ça a été une pièce de René de Obaldia qui a 102 ans aujourd'hui, qui est en pleine forme, qui va tous les jeudis à l'Académie. qui est incroyablement jeune. Il vit chez lui tranquillement à Paris. Et il avait écrit une pièce qui s'appelait La Babysitter.
La Babysitter, qui était une pièce désopilante, complètement déjantée. Et la première fois que j'ai joué le rôle de la Babysitter, j'ai entendu les gens rire pour la première fois. Et là, j'étais addict tout de suite. J'ai compris que c'était ça qui me plaisait sur scène. C'était de faire rire les gens.
Voilà. Et vous avez fait rire avec Une journée chez ma mère. Et cette pièce a eu un immense succès. Mais je crois que le jour le plus émouvant, c'est celui où vous avez pleuré quand votre mère était dans la salle.
Moi, ce qui était très mignon, c'est qu'en fait, quand on a écrit Une journée chez ma mère avec Bruno Gassiot, je racontais mon enfance et je racontais une journée chez nous dans un hôtel particulier qui tombait un peu en ruine. On devait de l'argent aux huissiers et ma mère se débattait dans tous les sens pour essayer de faire tenir cette baraque et quatre gosses. Mon père était parti à l'autre bout du monde. Enfin, donc je rôde le spectacle dans une toute petite salle à Lyon, au Théâtre de l'Accessoire. Et à un moment, comme ça a beaucoup de succès, justement, le Théâtre de la Michaudière me propose de venir jouer à Paris. Alors là, on est ici avec Bruno, mais je dis, mais attends, dis donc, il faut peut-être quand même que j'en parle à ma mère, parce qu'après tout, quand même, je raconte sa vie. Donc j'avais quand même juste omis ce petit détail.
Un détail, oui.
Juste un détail. Donc je l'appelle et je dis, écoute, voilà, maman, est-ce que tu pourrais descendre à Lyon? J'aimerais bien que tu viennes voir, parce qu'en fait, j'ai écrit un spectacle qui s'appelle Une journée chez ma mère. Et voilà, on me propose de le jouer à Paris dans un très grand théâtre parisien, donc je suis vraiment très contente. Mais avant, je voudrais que tu sois d'accord, parce que si tu n'es pas d'accord, je ne le ferai pas, parce que ça raconte quand même un peu ta vie, enfin notre vie. Elle me dit, ah bon? Alors elle descend, donc moi vous pensez bien que moi je tremblais quand même, et puis mais je voulais pas, j'avais peur de la heurter, parce que même si le spectacle était très drôle, ça racontait quand même quelque chose d'assez intime sur la famille. Donc elle vient voir le spectacle, les gens rient comme c'est pas permis, et à la fin donc du spectacle, je lui ai dit, écoutez, voilà, je suis un peu émue aujourd'hui, parce que c'est un jour particulier, parce que voilà, ma maman, celle dont je raconte Une journée chez ma mère, est là aujourd'hui dans la salle. Voilà, et je la montre. Et là, à mon grand étonnement, tout le monde l'applaudit et tout le monde se tourne vers elle. En fait, elle devient le centre. Et tout le monde se met en rond autour d'elle et commence à l'applaudir, à tout rompre. Et en fait, ils applaudissent pas Madame la Baronne dans son hôtel particulier. Ils applaudissaient cette espèce d'héroïne du quotidien que toutes ces femmes connaissent parce qu'elles se sont reconnues en fait en elle. Il y a beaucoup de femmes aussi qui élèvent seules leurs enfants et qui tirent le diable par la queue et qui du coup admiraient à la fois ma mère et à la fois le fait de faire aussi une pièce sur un anti-héros, parce que moi par exemple dans ma famille tout le monde le héros c'est mon père parce qu'il fait des voyages extraordinaires, il gravit les sommets du Ladakh, mais ma mère non, c'était pas vraiment une héroïne et le public l'a reconnue comme ça. Donc, elle s'est mise à pleurer. Elle était tellement émue. Moi, évidemment, je me mets à pleurer. Donc, évidemment, le public se met à pleurer. Et ça a duré comme ça, je ne sais pas, mais un quart d'heure où les gens à la fois applaudissaient et pleuraient, en fait, cette femme qui les représentait, quelque part.
Voilà. Une autre femme a compté dans votre vie, Charlotte Durkheim. On en parle dans quelques instants avec une autre date, le 19 mai 1993. À tout de suite sur Sud Radio avec Charlotte de Durkheim.
Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Charlotte de Durkheim. Le dictionnaire de ma vie est paru chez Kerhaut, vous l'avez réalisé avec Marina de Baleine, on va en parler plus longuement tout à l'heure. Et dans ce dictionnaire de ma vie, vous parlez d'une femme, et cette femme se réfère à une date importante, le 19 mai 1993. C'est le jour de la palme d'or de ce film.
Je voudrais faire un échange.
Entre quoi?
Le piano.
Vincent du piano, de Jeanne Campion, film Palme d'Or à Cannes. C'est la première fois qu'une femme avait la Palme d'Or, c'est aussi la dernière. Et elle a été la première aussi présidente du jury en 2014 à être la première réalisatrice accédant à cette fonction suprême et illustre.
Bah bien sûr, c'est une femme importante pour moi, parce que moi qui suis réalisatrice aussi, ça fait partie de ces femmes qui m'ont donné le courage aussi et l'envie de faire ça dans ce monde d'hommes. Alors je sais qu'on parle beaucoup de ça en ce moment et que quelquefois c'est peut-être un sujet dont on se... Les gens trouvent qu'on leur rabâche les oreilles avec ça, mais c'était très important, très très important pour moi, bien sûr.
Oui, parce qu'effectivement, c'était le point de départ d'un combat dont vous n'aviez pas peut-être conscience, finalement.
Non, parce que je ne l'avais pas du tout pris comme un combat, en fait, au départ. Pour moi, c'était une évidence, parce que le gros avantage du café-théâtre avec lequel j'ai commencé, c'est que, alors justement, les femmes et les filles et les garçons avaient absolument le même pouvoir. Il n'y avait pas des rôles plus importants que d'autres, et tout le monde faisait à la fois les trucs sympas et les trucs moins sympas, comme ranger les décors, comme nettoyer la salle, et on gagnait exactement tous la même chose, parce qu'il y avait une recette, on la mettait tous dans une valise, tout était en liquide, on était 5, on divisait en 5, point barre, donc il n'y avait pas ça. Donc moi, au début, je ne l'ai pas du tout pris comme un combat, j'ai cru, je me suis dit, oh ben voilà, les femmes ont leur place, je ne me posais même pas la question. Mais c'est petit à petit, quand je suis rentrée dans le métier, que je me suis rendu compte que c'était quand même compliqué, quand même, ce statut de femme. Et puis je me suis rendu compte aussi que souvent j'ai fait des films, par exemple pour la télé, où je partageais la vedette avec un homme. Oui. Puis je me rendais compte au début que à notoriété égale, l'acteur, enfin le garçon qui faisait le rôle, était mieux payé que moi. Et un jour, je me suis dit, non mais ça, c'est pas possible, c'est impossible. Donc j'ai dit à mon agent, écoute, c'est simple, quand je vais faire un film maintenant, c'est à notoriété égale, bien sûr, parce que si le mec est beaucoup plus connu que moi, je veux gagner la même chose que lui, sinon je ne le fais pas. Voilà, c'est simple.
Et vous avez ouvert aussi une voie à l'humour au féminin, avec Muriel Robin ou Valérie Lemercier, Charlotte de Turckheim.
Oui, alors ça, je pense que c'est plutôt Sylvie Joly qui nous a donné vraiment envie. Sylvie Joly, ça a été Jane Campion, ça a été pour le cinéma et Sylvie Joly, ça a été pour la scène. Quand j'ai vu Sylvie Joly sur scène, en plus elle venait un peu du même milieu que moi, elle était avocate, elle venait des beaux quartiers, donc je me suis dit, parce que c'était un handicap pour moi de venir du 16e pour faire ce métier-là, j'étais terrorisée. Et de voir cette femme sur scène, il y avait eu Jacqueline Maillan, mais Jacqueline Maillan, elle faisait pas vraiment du one woman show, elle jouait dans des pièces de théâtre.
Il y avait Anne-Marie Carrière aussi, première chansonnière qu'il ne faut pas oublier dans les années 50 qui passait aux deux ânes et qui défendait les femmes sur des sujets moins graves.
Oui, c'est vrai, mais je ne la connaissais pas. J'étais peut-être trop jeune, je ne l'ai jamais vue.
Elle évoquait les femmes, notamment les hommes qui se plaignaient parce que les femmes se remaquillaient avec le rétroviseur de la voiture. Donc ce n'était pas très méchant non plus.
Non, ce n'était pas très méchant non plus. Mais d'ailleurs, mais ni chez Valérie, ni chez Muriel, ni chez moi, il y avait l'intention d'être méchante avec les hommes. Nous, ce qu'on voulait simplement, c'est rire, faire rire avec nos histoires, et on n'avait aucune acrimonie vis-à-vis des hommes. La seule chose, c'est que on ne s'autorisait pas forcément à le faire, parce que on nous expliquait qu'une fille, moi je veux dire, combien de fois on m'a expliqué, ce cher Jacques Martin n'était pas tendre avec les femmes qui faisaient rire. Moi, il m'avait fait des remarques assez souvent, en m'expliquant que c'était pas la place d'une femme de faire rigoler comme ça, que c'était pas très élégant. On considérait que le rire, c'était l'apanage des hommes. Voilà, c'est tout.
Et c'est aller plus loin aujourd'hui. Et quand vous voyez les mouvements féministes et les violences faites aux femmes, vous êtes solidaire complètement.
Bien sûr, je suis forcément solidaire. Même si quelquefois j'étais un peu heurtée, comme le jour où Adèle Haenel, je s'en ai pris publiquement à ce metteur en scène. J'étais au début, j'étais un peu choquée. Je me suis dit, mais c'est pas possible. On peut pas se faire justice soi-même. Alors ça veut dire qu'on fait pas confiance à la justice de son pays. Je trouvais ça. J'ai été très perturbée. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte qu'en fait, il n'y avait pas de possibilité de justice, puisque de toute façon, la plupart de ces actes-là n'étaient jamais punis, puisque manquant de preuves, je comprends très bien pourquoi, mais du coup, tous ces hommes-là restaient totalement impunis. Et que si on voulait que ça s'arrête, eh bien la seule manière de le faire, c'était de le faire par la voix des médias. Ce qu'a fait ensuite formidablement Camille Kouchner en écrivant ce livre, qui en plus est absolument magnifique. Mais je crois qu'elles ont fait quelque chose de fondateur, en fait. Parce que c'est vrai que quand on dit qu'il faut que la peur change de camp, moi je suis tout à fait d'accord avec ça. On s'est tellement habitué à cette toute-puissance des hommes que ça me paraissait normal en fait, moi.
Oui, et d'ailleurs dans ce livre où vous dévoilez quelque chose qu'on ne savait pas, et effectivement aujourd'hui on peut en parler, c'est que votre adolescence a été gâchée par un avortement, Charlotte de Turckheim.
Oui, ça a été gâché par un avortement. Mais je pense que ça aussi, c'est quelque chose que partagent énormément de femmes. C'était à une époque où c'était, évidemment, on ne pouvait pas se faire avorter, c'était interdit. Et justement, ce combat de Gisèle Halimi, justement, et cette signature de toutes ces femmes qui ont fait avancer. Moi, j'étais en encore trop jeune et puis trop impressionnée pour y participer, mais ça, c'est quelque chose qui a... Bah, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai pas eu, à partir de là, j'ai pas eu d'adolescence, parce que faire ça à 15 ans...
Et à Londres, en plus,
parce que... À Londres, parce que c'était interdit en France, c'est pas que j'ai mis des années à m'en remettre, c'est qu'en fait, je suis devenue une adulte du jour au lendemain, et j'ai plus jamais été une ado, en fait.
Et vous racontez dans ce livre qu'à l'aéroport, vous avez vu plein de jeunes femmes qui venaient pour les mêmes raisons. C'est inimaginable aujourd'hui, Charlotte de Turquie.
Oui, il y avait... En fait, on prenait un avion à Beauvais et on atterrissait à côté de Londres. C'était des vols qui étaient vraiment pas chers. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait plein de jeunes françaises qui faisaient la même chose que moi. Et les flics étaient parfaitement au courant. Moi, ils m'avaient gardé d'ailleurs pendant des heures pour m'interroger. J'avais 15 ans. Et puis, ils m'ont relâché parce qu'ils devaient avoir pitié. Tout le monde savait très bien ce qu'on venait faire, quoi. Et je pense qu'ils devaient avoir de la peine pour nous en se disant, mon Dieu, c'est des ados. Comment ils ont fait pour arriver jusque-là, quoi.
Alors, vous évoquez aussi dans ce livre, Charlotte de Turckheim, une passion pour le cheval que vous devez à un film de Philippe de Broca qui s'appelait Chouan.
Oui, absolument. Je vois Philippe de Broca et il me propose un rôle absolument magnifique, qui est une guerrière à cheval et qui mène toute son armée derrière elle. Et je pense que, comme c'est un aristo lui aussi, il pense que tous les aristos savent monter à cheval. Donc, il ne me pose pas la question de savoir si je sais monter à cheval. Et donc, finalement, il me dit, c'est bon, c'est toi qui fais le rôle. Alors, tu vas aller voir Mario Luracci pour un peu te familiariser avec le cheval. Enfin bon, j'imagine que pour toi, c'est vraiment une broutille. Et donc, je vais voir Mario Luracci. Et il me dit, dis donc, c'est un rôle génial et tout, c'est super, comme t'es cavalière. Et je lui dis, non, il faut quand même juste que je vous dise quelque chose. Je ne sais pas monter à cheval. Il me dit, tu sais pas monter à cheval? Je dis, non, je ne sais pas monter à cheval. Il me dit, tu as accepté un rôle? Il me dit, tu te rends compte du rôle que c'est? T'as une armée de 100 cavaliers derrière toi et toi, t'es devant, t'es la première. Et t'acceptes le rôle. Je dis, oui, parce que vous allez m'apprendre à monter à cheval. Il me dit, attends. Je t'apprends à monter à cheval à une condition. Il me sort un espèce d'étalon magnifique dont il a le secret. Il me dit, voilà, tu vas monter sur ce cheval. On sort sur une petite route goudronnée, je me souviens, à côté de chez lui, là, à côté de Paris. Il me dit, tu vois le poteau télégraphique là-bas? Tu vas jusqu'au poteau télégraphique au galop, tu l'arrêtes le cheval, tu reviens. Si tu tombes pas, je t'apprends à monter à cheval. Si tu tombes, je te balance à la production.
Et vous avez réussi à ne pas tomber. Et il se trouve que la guerre, justement, ça a été le déclic pour Philippe de Broca, qui est en Algérie pendant la guerre. Il est affecté par hasard au cinéma aux armées, et c'est comme ça qu'il a débuté, en tournant des films pour le cinéma aux armées.
Ah, je ne savais pas ça.
Alors, le cheval, ça a tellement marché que vous avez fait différents voyages, dont un qui a failli mal se terminer. Un jour, vous êtes perdu et vous avez cru que vous alliez disparaître, Charlotte de Turckheim.
Ouais, je crois qu'on est toujours à un moment dans la vie confronté à ses propres peurs. Moi, une de mes terreurs, c'était de me perdre. Et j'avais une copine que j'ai toujours, que j'adore, et on a fait beaucoup de voyages à cheval, comme ça, dans des endroits très reculés. Et un jour, elle me dit, écoute, viens, on va au Kazakhstan, dans un endroit qui vient de réouvrir et qui a été fermé pendant 80 ans, parce que c'était une zone tampon entre la Chine et le Kazakhstan. Et on va aller monter à cheval là-dedans. Alors je dis, écoute, très bien, super. Et donc, on part. Et on part avec nos guides kazakhs. Mais qui, par définition, ne connaissait pas cette zone tampon, puisqu'elle était interdite à tout le monde. Et on part quand même, on est parti 15 jours. Et au bout du 8e jour, ils connaissaient vaguement, ils avaient entendu parler, etc. Mais au bout de 8 jours, ils ne savaient plus du tout où ils étaient, les gars. Alors moi, je leur faisais confiance parce qu'ils étaient kazakhs et je croyais qu'ils étaient... Mais je me suis rendu compte très vite qu'en fait, ils étaient eux-mêmes étaient perdus. Et donc, quand vos guides sont perdus, là, vous vous dites que vous êtes dans la merde, quand même. Là, vous vous dites... Là, c'est quand même... Et à un moment, il a fallu qu'on passe un col. On n'a pas réalisé que le col était si haut. Et en plus, on n'était pas du tout équipés. On n'avait pas emporté des vêtements de pluie. Enfin, tout était resté... Et on avait un espèce d'énorme camion, là, qui nous suivait. Ou des chevaux de bas, je me souviens, mais qui ne prenaient pas le même chemin que nous. Et on avait tout laissé, évidemment. On n'avait rien. Et on s'est... séparés en deux groupes, je ne sais pas pourquoi, il y avait trois d'un côté, trois de l'autre. Heureusement, il y avait quand même un des guides avec nous, mais qui ne nous servait à rien, parce qu'il était aussi terrorisé que nous. Et tout d'un coup, on se met à gravir ce col, on se rend compte qu'il y en a trois qui manquent, on ne sait pas où sont les autres, et la nuit tombe, L'autre fille qui nous servait d'interprète, la russe, qui était franco-russe et qui parlait aussi un peu kazakh, était morte de peur et me disait « on va mourir ». Il se met évidemment à pleuvoir, parce que sinon ça serait pas amusant. Donc on est transi de pluie et de froid. Et là, je vois mon guide complètement paniqué. Je lui dis « mais qu'est-ce qui se passe ?» Et là, la traductrice me dit bah, « en fait, on rentre dans une... à ce niveau-là d'altitude, il y a pas mal d'ours et de loups. » Oh, je lui dis bah, « c'est trop cool !» C'est trop bien. On est perdu, on n'a pas de vêtements, il pleut. La guide chiale, l'autre était complètement terrorisé. Et puis finalement, au bout de, je sais pas, de 5 ou 6 heures, on est arrivé à passer de l'autre côté. Et quand on a vu dans le fond de la vallée, de l'autre côté, une toute petite lumière, on s'est rendu tout de suite dans cet endroit. C'était une petite cabane en bois qui était. C'était d'ailleurs comme une sorte de phare dans la montagne. Je savais pas que dans toutes ces montagnes-là, il y a des lumières allumées comme ça, comme des spots pour les gens qui s'égarent justement. Des phares de montagne, c'était assez beau. Et là, on a retrouvé nos trois copains qui étaient bourrés comme des coins à la vodka. Ils avaient eu tellement peur et avec une espèce de brasero. Je me souviens qu'il faisait des chaleurs. Il y avait un taux d'humidité absolument dingue. Ils étaient ivres morts et ravis de nous voir. Et moi, j'étais à la fois ravie de les voir et à la fois, j'étais quand même très, très en colère de cette situation. Quoi.
Oui, effectivement, c'est pas terrible de se retrouver comme ça.
J'avais la trouille de ma vie.
Ouais. À tout de suite sur Sud Radio avec Charlotte de Turquet.
Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Charlotte de Turquem, donc 19 mai 2021, sortie chez Kero de ce dictionnaire de ma vie, réalisé par Marina de Baleine. Et je crois que la clé Marina, et du livre est là. Marina de Baleine, c'est une amie de toujours, je crois.
Voilà, on s'est connus à l'âge de 9 ans. Donc ça fait
Quelques années à peine.
Quelques années à peine. Et on a tout de suite été très 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 amis parce que on habitait toutes les deux le 16e et on avait toutes les deux des familles quand même très atypiques et on était assez raillées toutes les deux, on était assez montrées du doigt, on n'était pas du tout comme les autres quoi. Donc je vais pas du tout faire pleurer dans les chaumières parce que je suis quand même née du bon côté du Manche, mais on peut quand même du bon côté du Manche subir la raillerie, la moquerie. Les enfants sont méchants, les gens sont méchants quand même. Et donc ça a scellé une belle amitié entre nous. Et on est devenus presque inséparables quoi, depuis toutes ces années. Alors la vie quelquefois nous a séparés, elle est allée habiter dans le sud, on s'est mariés, on a divorcé, enfin bon. Mais la vie nous ramène tout le temps l'une à l'autre. Et ça fait plusieurs années presque, elle me dit « Oh mais j'aimerais beaucoup qu'on écrire un relief sur ta vie. » Et toi, je me dis « Écoute Marina, laisse tomber. Bah. » Écoute, je vais pas écrire une bio, c'est très prétentieux. » Elle me dit « Bon, et puis là, elle est revenue avec cette idée de... En me disant, écoute, voilà, il y a une collection qui est vraiment intéressante chez Kalman Levy, chez Kero, qui s'appelle Le Dictionnaire de ma vie. Il y a 15 hommes qui l'ont fait. Déjà, il y a Éric Dupond-Moretti, d'ailleurs, aussi, qui l'a fait dans les politiques. Il n'était pas à l'époque. Eddie Mitchell, je crois que c'est le dernier. Mais il n'y a pas de femmes. Et je pense que ça serait une bonne idée. Et je sais pas pourquoi l'idée m'a séduit. Cette histoire, je pense, d'abécédaire aussi est assez séduisant parce que du coup, c'est pas une biographie, c'est pas prétentieux quoi. On n'est pas là en train de raconter ses mémoires. Hein. C'est juste des thèmes qui sont abordés comme ça. Et puis voilà, les gens piochent là-dedans dans ce qui les intéresse ou ce qui les intéresse moins.
Et vous l'avez écrit, Charlotte de Turquem, dans des conditions optimales, c'est-à-dire en Provence, dans les Alpes, où vous vivez, et où vous avez des chambres d'hôtes. Ça aussi, ça a été un pari. Quand vous avez décidé de faire des chambres d'hôtes chez vous, à Égalières, on vous a ri au nez.
Oui, mais j'ai remarqué qu'en règle générale, dès qu'on s'attaque à quelque chose de nouveau, les gens commencent tout de suite, en fait, par vous décourager, en disant « Oh non, mais attends, vous n'êtes pas pro, vous n'allez pas y arriver, vous ne connaissez pas. » Alors, ce n'est pas moi vraiment qui m'en occupe, hein, c'est mon mari qui fait ça. Mais c'est drôle comme... Il y a eu peu de gens qui les gens n'aiment pas en fait tellement qu'on prenne ce genre d'initiative de faire des choses différentes. Et en fait, ça a tout de suite très bien marché. D'abord parce que mon mari est exceptionnellement accueillant. C'est vraiment, il a ce côté oriental où on est complètement avec les gens. Il est ultra sympa. On a aussi la chance d'habiter une région qui est juste magique, quoi. Je veux dire, les Alpes, c'est quand même un des plus beaux endroits du monde. Il y en a plein d'autres, bien sûr, mais celui-là est particulièrement beau. Et d'ailleurs, il y a eu tellement de peintres, tellement d'artistes qui sont venus s'installer dans ce coin-là. Van Gogh, il a quand même peint les iris, il les a peints à Saint-Rémy-de-Provence.
On est d'accord.
Quand même.
Alors, cette gentillesse de votre mari, vous l'évoquez aussi parce que vous avez, vous, découvert, Charlotte de Turckheim, quelque chose qu'on connaît peu, qui est l'éthologie.
Oui, ben c'est à travers en fait l'équitation, petit à petit, quand ça devient une passion, on se demande aussi, ou on voit aussi surtout les choses négatives qu'il peut y avoir. Et moi, je comprenais pas pourquoi est-ce que dans l'équitation, il pouvait y avoir aussi ce rapport si violent, si dur avec les chevaux. Moi, il y a des gens qui considèrent qu'il faut dresser le cheval, etc. Et moi, ça a fini pas mal par me heurter. Et cette amie justement qui m'avait emmenée au Kazakhstan, Annie Riz, qui est quelqu'un de très important pour moi. C'est elle qui, la première, m'a fait faire un premier stade d'éthologie. Et puis par la suite, il s'avère que ma fille Julia a épousé son mari, enfin Jean-Marc, qui lui est maintenant est moniteur aussi d'éthologie. Et on en fait beaucoup ensemble. Enfin, il m'a beaucoup appris de choses.
C'est quoi l'éthologie ?
Alors l'éthologie, c'est obtenir du cheval ce qu'on veut, mais avec son consentement. On parle beaucoup de consentement en ce moment. C'est-à-dire pour lui, c'est presque comme un jeu. Il a envie de faire ça. Par exemple, on fait beaucoup de travail en liberté, c'est-à-dire que vous mettez le cheval totalement en liberté, il n'y a pas de longe, rien. Et avec son consentement, à la voix, vous lui dites, allez, au pas, il va au pas. Vous dites au trot, il part au trot, au galop, il part au galop. C'est une sorte de communication homme-animal. Ça se fait à deux, voilà. Et on ne peut pas obtenir de lui quelque chose qu'il ne veut pas faire. Et donc, ça veut dire que du coup, quand on part après en promenade avec lui, eh bien, il suffit juste de dire galop, et il part au galop, parce qu'il sait que ça va être un moment plaisant, il sait que ça va être un moment agréable. Et ça puis, change tout.
Alors, des moments agréables, vous en avez quand même connu dans votre vie, et notamment en écoutant cette musique. Le Yodel, un chant traditionnel autrichien, et je crois que c'est votre musique préférée, Charlotte de Turckheim.
Alors, je ne sais pas pourquoi, mais le Yodel me met en joie. Je trouve que c'est tellement joyeux, c'est tellement loufoque. C'est quand même dingue, parce que sur le plan vocal, c'est très très difficile. On passe de grave à aigu à toute vitesse. J'avais essayé d'en faire un peu à la fin d'un spectacle, et je m'étais entraînée pendant des heures et des heures grâce à YouTube. Je trouve que c'est une espèce de fantaisie. Et puis les rythmes du yodel, cette espèce d'accordéon, c'est tellement joyeux que ça me met en joie.
Voilà. Alors ça vient de yo-yo-yo, ça date de 1800 et au départ c'était un cri pour communiquer avec les animaux, pour leur signaler un danger ou dire aux gens de la vallée à la montagne que tout allait bien sur les hauteurs.
Ah oui, c'est ça, c'était comme les Indiens qui communiquent avec les fumées. En fait, c'était les bergers qui se parlaient entre eux.
Voilà, et c'est parti aux États-Unis, il y a eu une yodel mania. Et c'est revenu en Europe.
Ah mais moi je pense qu'en Europe ça n'a jamais quitté l'Europe. Hein.
Oui mais les États-Unis ont développé le yodel.
Ah oui ça je savais pas.
Du côté de Chicago en particulier.
Ah bon c'est vrai.
Où il y a eu des rencontres de yodel. Alors, il y a aussi votre passion de la cuisine. Et dans votre enfance, Charlotte de Turckheim, on parlait justement des pays lointains, la cuisine indienne a été quelque chose d'important pour vous, alors que finalement, peu de gens la connaissaient à l'époque.
Oui, parce que ça vient une fois de plus de mon père, donc qui était très voyageur et qui a commencé à être un voyageur immobile, puisque ses premiers voyages, c'était, il devait avoir 30 ou 35 ans, et il nous emmenait dans des restaurants indiens à Paris, des restaurants chinois aussi.
À l'époque, ça existait pratiquement.
Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Et ça paraît dingue d'ailleurs, parce que maintenant, quel est le quartier, même dans mon village, maintenant dans mon petit village, il y a même un restaurant de sushi, alors qu'il y a 1800 habitants. Donc, ça n'existait pas, tout simplement. Et il y en avait à Paris, il y en avait au quartier latin, il y en avait rue Monsieur le Prince, je me souviens. Il y avait deux ou trois rues qui avaient des restaurants indiens et des restaurants chinois. Et je ne sais pas comment papa a découvert ces restaurants-là, mais quand on y allait, et c'était déjà en fait les premiers voyages.
Oui, et en même temps, ça vous a permis de vous familiariser avec la cuisine. Et c'est vrai que les bons petits plats, pour vous, ça fait partie du bonheur quotidien, Charlotte de Turckheim.
Alors moi, je suis donc très gourmande, je crois que ça se voit malheureusement. En plus, mon mari, il est encore plus que moi. Lui aussi est cuisinier, puisqu'il fait des repas afghans à tomber par terre. Donc c'est vrai qu'à nous deux, on ne s'aide pas beaucoup en ce qui concerne le poids. Mais c'est vrai qu'on adore, on adore les bons produits, on adore bien manger. C'est quelque chose d'important pour nous, trop important à mon avis. Mais bon.
Oui. Mais quelque chose qui vous exaspère en revanche, c'est quand on vous détaille les plats dans un restaurant en les récitant et en les annonçant.
Oui, mais alors qu'est-ce que c'est que cette mode ? Je trouve ça vraiment mais gonflant. Oui. Et puis, alors, moi, je sais que j'avais été dans un restaurant où la fille nous interrompait et elle était absolument furieuse parce qu'on ne l'écoutait pas. Oui. Mais j'avais envie de lui dire, mais écoute, on s'en fout complètement. On a choisi une salade de petits pois au bacon sur son lit d'asperges. Ne me le dis pas. Je viens de le lire sur la carte et je l'ai commandé parce que justement, je l'ai lu sur la carte. Et très souvent, ils ont un petit côté un peu pincé pour nous annoncer ça. Et alors, à un moment, une fois que j'avais dit à un chef, mais pourquoi est-ce que vous êtes obligé de nous annoncer tous les plats ? Il me dit, mais je suis assez embêté, moi aussi, j'aime pas beaucoup ça. Mais maintenant, en fait, ça fait partie de leur formation et c'est leur grand moment. En fait, c'est comme la Castafiore quand elle vient chanter. Donc si vous leur dites que non, ils vont pas faire ça, en fait ils sont très frustrés. J'ai dit bon, bah, écoutez, si ça leur fait plaisir qu'elle m'annonce que j'ai pris des petits pois sur un lit d'asperges. Mais je trouve ça assez, assez ridicule en fait.
Alors la cuisine aussi, ça fait partie de votre cinématographie. Il y a eu Mince alors, qui est un film qui a eu du succès, et vous avez préparé la suite qui ne sort pas pour l'instant à cause de la pandémie, Charlotte de Turckheim.
Alors le Mince alors 2 est terminé, je l'ai terminé il y a 15 jours d'ailleurs, et maintenant ben, on attend une date de sortie. Donc en principe on va faire l'ouverture du festival d'Angoulême, et après ben, on va voir, parce que il y a 500 films en attente, donc le mien c'est le 501e.
Bien sûr, alors il se trouve aussi que ce film, le sous-titre c'est La Rechute, et vous avez toujours veillé, lorsque vous arrêtez quelque chose, de ne pas rechuter. Par exemple, arrêter de fumer, c'est une chose, il ne faut surtout pas recommencer, sinon on fume la cartouche.
Alors c'est drôle que je dis ça, parce que du coup j'ai enlevé ce mot. Ça s'appelle plus Mince alors la Rechute depuis hier. Ça s'appelle Mince alors 2 parce que je trouvais que la rechute avait quelque chose de négatif.
Oui.
Et que c'était pas du tout en plus finalement le sujet du film. Donc on avait pris ce titre au début et on l'a changé hier.
Alors, vous aimez de toute façon apprendre en permanence, et surtout vous avez une qualité que vous évoquez dans ce livre, Charlotte de Turckheim, c'est que vous êtes multipotentiel.
Alors, je sais pas si c'est une qualité, parce que ça peut être aussi un défaut. En tout cas, c'est une... C'est une structure psychologique d'être, maintenant on appelle ça les MP, ça veut dire qu'on s'intéresse à énormément de choses, mais on ne devient spécialiste en rien, en fait. Donc, souvent, on nous appelle les touche-à-tout, ça peut être considéré un peu comme quelque chose de négatif. Moi, maintenant, ça a été, j'allais dire, reconnu comme une espèce de particularité... de comportement. Moi, je vois ça comme quelque chose de très constructif, mais par exemple, à l'école, les choses sont très compartimentées. Vous faites une heure de maths, puis une heure d'anglais, puis une heure de français, alors que les gens qui sont multipotentiels comme moi, qui, en fait, ils aimeraient apprendre tout en même temps, et tout se complète. Donc, c'est un peu compliqué à vivre, parce que la majorité des gens aiment plutôt être dans des cases.
Oui, mais est-ce que, justement, c'est une qualité
Moi, je le vis comme une qualité,
oui,
bien sûr.
Bien sûr, dans les temps anciens, on faisait tout. Et là, maintenant, on est des spécialistes et encadrés. C'est peut-être pas la bonne solution.
Moi, je trouve que c'est pas la bonne solution. Et en plus, je trouve que la grosse erreur que moi, je trouve qu'on fait, c'est qu'on demande beaucoup trop tôt, maintenant, aux jeunes, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie ? Qu'est-ce que tu veux choisir dans la vie ? Moi, je trouve que c'est une grosse erreur, parce que du coup, ça ferme toutes les autres portes. Je pense que ce qui est intéressant, c'est justement, c'est de se laisser imprégner par plein de choses. Et puis ensuite, on va voir ce qu'on a envie de faire. Et puis surtout... On a le droit, et si on en a envie, de faire plein de choses différentes. Ça va se compléter, ça va vous nourrir. On n'est pas obligé de choisir une seule voie. Et moi, je me rends compte que je rencontre beaucoup d'ados, principalement, ou de très jeunes, à qui on dit « Mais qu'est-ce que tu... Mais non, il faut que tu choisisses, tu ne peux pas tout faire. » Et tout. Moi, je leur dis « Non, non, faites tout. » Non, non, fais tout. Tu es intéressé par les sciences, mais en même temps, tu veux faire du piano, mais en même temps, tu veux faire de la pâtisserie, tu fais tout.
C'était le cas d'ailleurs de Francis Blanche, qui était multipotentiel à sa manière, qui faisait tout, qui écrivait des chansons, tournait dans les films. Il avait une particularité, il était capable d'écrire des deux mains en même temps.
Ah oui ?
Deux textes différents.
Mais non !
Oui, donc c'était une autre façon d'être multipotentiel.
Mais oui, bien sûr, bien sûr.
Alors, à force de faire tout, vous allez continuer aujourd'hui, finalement, Charlotte de Turquet.
Bien sûr, je vais continuer,
parce que
évidemment.
Vous avez encore des tas de projets, le cinéma, la scène, les chambres d'hôtes, et peut-être d'autres livres, parce que vous êtes quelqu'un qui, en ce moment, je crois que vous intéressez à la recherche de l'eau, et il y a plein d'autres domaines qui vous passionnent.
Ce qui me passionne en ce moment, c'est l'urbanisme.
Oui.
Ah ça, l'urbanisme, je trouve ça passionnant, parce que quand on voit que, quand j'étais jeune, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette époque, il y a eu un moment où on a dit il n'y a plus de bidonville en France.
Oui.
Et on était tellement contents d'avoir construit toutes ces barres de HLM. On était fiers de notre pays. On nous montrait des photos où on disait chaque appartement a sa salle de bain. Comment on aurait pu imaginer que 50 ans plus tard, ces barres de HLM allaient devenir des cités donc je trouve ça passionnant de se dire, mon Dieu, mais ce qui a été vécu comme un grand progrès à un moment peut être vécu comme une grande nuisance 50 ans après. Et ce vivre ensemble qui passe quand même aussi par la ville, par l'urbanisme, c'est quelque chose qui me passionne.
Voilà. En tout cas, ce qui est très construit, c'est ce livre, effectivement, Le dictionnaire de ma vie chez Kirou, que vous avez réalisé avec Marina de Baleine.
Que je remercie, parce que sans elle, je ne l'aurais jamais fait.
Et donc, on ne vous aurait pas accueilli à ce micro. Merci Charlotte de Turquem d'avoir participé à cette émission. Et je recommande à celles et ceux qui nous écoutent ce livre, à la fois plein d'humour et passionnant, où on vous découvrira. Merci et à bientôt.
Merci.
Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.